un commentaire. J'ai l'impression que le grand absent de tout ce qui est service public, là, c'est les universités. On en parle très peu. Et là, en termes de patrimoine immatériel, je crois qu'il y a à faire, non ?
Vous avez raison, chère madame. Ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire.
Si ce n'est pas là qu'il y en a le plus, d'ailleurs.
Je crois que c'est derrière les archevêchés, je crois. Voilà, c'est ça. Bon, c'est une sorte, vous savez, hein, vous vous souvenez de l'époque, parce qu'on parle des églises et de la Sorbonne, vous savez qu'il y avait un vieux dicton à l'époque de la création de la Sorbonne, opiner du bonnet comme un moine en Sorbonne. Donc vous voyez qu'il y a un rapport entre la Sorbonne et l'église au départ. Hein. Alors, il y a quand même au sein du Panthéon et à l'université, à la bibliothèque Cujas, il y a un service, justement, d'archivage qui conserve quelques, je crois, quelques incunables que Parisien possède. Hein, voilà.
Monsieur, je vous entreprends, Paul Arnaud, sur un procédé technique. Là, vous avez fait état de ce qu'il y avait au point, enfin, il va y avoir au point, mis au point, un authentificateur, un certificateur de numérisation. Est-ce que sous une approche différente, est-ce qu'il existe une CRI, un logiciel qui permet, comme un logiciel semblable à la recherche des mots-clés dans un texte? Est-ce qu'il existe, ou alors est-ce qu'il peut exister à l'avenir, être mis au point, un logiciel qui balaye tout un texte par rapport à un document initial natif?
Oui, alors vous posez là la question de la vérification. Quand j'ai numérisé par exemple un document, j'ai numérisé mon document, comment je m'assure qu'il est conforme à l'original? Bon. Alors, vérification automatique, ce qui se passe assez souvent, c'est possible dans certains cas. Mais quand vous prenez par exemple ce document que j'ai toujours là sous la main, il est imprimé. Si je le numérise, dans la première étape, j'obtiens une photographie. Les lettres, les caractères qui sont là sont des images. Dans une deuxième étape, je peux éventuellement transformer ces images de caractères en caractères codés. C'est l'objet de la lecture automatique. D'accord ? Bon. Quand je passe d'une étape dans l'autre, je peux générer des erreurs. Et la vérification n'est pas toujours très facile. Je vais prendre un autre exemple. Je numérise des plans, d'accord ? Des plans de bâtiments, des plans d'installation, qu'importe. Et si mon plan est un peu ancien, parfois il y a des petites poussières, il y a des petites taches dessus. J'ai un logiciel au niveau de la numérisation qui dit ces petites taches, je vais les éliminer. Alors à partir de quand on considère que la tâche est suffisamment grande pour ne pas être un défaut et être un détail qu'il faut conserver? C'est assez délicat, d'accord? Donc cela pour dire, il y a dans les processus de numérisation des opérations automatiques que l'on fait à juste titre pour améliorer la qualité, pour améliorer l'utilisabilité du document, et ces opérations peuvent introduire des défauts. Et on ne sait pas vraiment bien vérifier automatiquement tous ces défauts potentiels. Oui. Le procédé existe. Mais alors, ce que je vais dire, c'est que quand on veut numériser des originaux qui ont une valeur de preuve, la bonne précaution, ce n'est pas d'agir au niveau de la qualité, c'est pas inutile. Mais la bonne précaution, c'est déjà de dire que quand je vais, par exemple, ouvrir le courrier qui rentre dans une administration le matin, trier le courrier, ce que je numérise, ce que je numérise pas. À partir du moment où j'ai décidé de faire une pile des documents que je vais numériser, alors cette pile doit rentrer dans un processus très bien contrôlé. le nombre de personnes qui peuvent agir à ce niveau-là, doit être, ces personnes doivent être identifiées, il faut sécuriser ça. Et la précaution que l'on prend, qui est la plus importante, à mon avis, c'est plus celle-là que la qualité de la numérisation ou les défauts introduits par cette numérisation. Il ne faut pas oublier non plus de les vérifier. On voit aujourd'hui dans les microfilms qui sont détenus par les grandes institutions que parfois ces microfilms ont été réalisés dans des mauvaises conditions et sont illisibles parce qu'on n'a pas fait de contrôle qualité. Autrement dit, quand on va numériser, il faut faire du contrôle qualité. Quand on fait de la saisie, il faut faire du contrôle qualité.
Oui, Serge Slama, j'aurais une question à Monsieur Campana. Je crois qu'on n'a pas encore parlé comme administration numérique, c'est sur les circulaires. Alors, comme vous savez sûrement, le décret du 8 décembre 2008 avait prévu que les circulaires qui n'étaient pas repris sur un site du Premier ministre, donc qui à l'époque était circulairegouv.fr, au 1er mai 2009, étaient abrogés. Et qu'on a regardé au 1er mai 2009, il y avait une infime partie des circulaires qui avaient été reprises, donc la quasi-totalité des circulaires ont été abrogés. Il y a quelques exceptions, mais je vous les passe. Et depuis, quand on regarde régulièrement les circulaires qui sont reprises, il y a un très gros problème d'alimentation. Alors, j'imagine que c'est lié au ministère. Je prends juste un exemple emblématique. La fameuse circulaire du 31 mai 2012 sur le changement de statut des étudiants qui abroge la précédente circulaire du 31 mai 2011, dite circulaire Guéant. Actuellement, elle n'est pas reprise sur ce site, circulaire Légifrance circulaire. Et ça veut dire qu'elle n'est pas applicable. Donc un étudiant étranger qui va dans une préfecture qui demande un changement de statut, on lui dit « Ah ben non, c'est pas applicable ». Et on pourrait prendre comme ça des dizaines d'exemples. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de contentieux devant le Conseil d'État, que la jurisprudence est encore assez fluctuante sur la valeur exacte de l'abrogation, de la mise en ligne, de l'opposabilité, puisqu'il y a une confusion de toutes les notions. On dit que c'est pas applicable, c'est pas opposable. Est-ce qu'on peut s'en... Enfin bon, il y a des gros problèmes par rapport à ce décret et surtout son application concrète.
Bon, alors là-dessus, il y a un vrai débat juridique d'application de la circulaire. Pour la réponse vis-à-vis de la DILA, malheureusement, la DILA n'est qu'un diffuseur de l'information légale et administrative et elle diffuse ce qu'on lui donne à diffuser. Circulaire.gouv.fr, dont vous faites référence, et qui est mis à jour au fil de l'eau par rapport aux informations qu'on nous donne. Maintenant, sur le manquement qu'il existe dans ce site, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Non, c'est les circulaires qu'on nous donne à mettre sur le site. On ne prend pas l'initiative de diffuser. Non, non, non. Maintenant, dans le processus exact de... Je pourrais vous faire un descriptif un peu plus complet, si vous le souhaitez, on peut garder contact. Mais non, mais oui, dans les faits, c'est... Oui, on est un diffuseur, donc on exécute ce qu'on nous demande de diffuser. Malheureusement, c'est pas quelque chose que je maîtrise en interne, mais bon.
Bon. Alors, William m'intime, m'ordonne de cesser les débats. Alors, je le regrette parce que j'avais quand même des questions à poser. Donc, bien, pour la suite, bon, écoutez, donc, nous vous souhaitons un excellent appétit. Nous vous donnons rendez-vous à 14h30. Merci à tous.